Nous entendons dès à présent notre triomphant avenir marcher à grands pas dans l'histoire. Oui, cela va commencer. Écoute, l'histoire.
Bernard Failly, l'anti-maçonnisme sous l'occupation.
Qu'est-ce que la maçonnerie ? Des groupes d'hommes réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous rayonnons partout, nous commandons partout. Ici, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis, le président est 32e. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ceci n'est rien. Il y a peut-être autre chose.
La BNF ouvre l'exposition la plus importante qui ait jamais été consacrée à la franc-maçonnerie. Elle est redevable à des prêts qui sont venus de l'extérieur, d'Écosse, là où s'est ébauchée la maçonnerie à la fin du XVIe, d'Angleterre, là où s'est créée la première loge en 1717. Mais jamais l'exposition n'aurait pu se tenir sans le fonds maçonnique propre de l'établissement. Et d'où vient ce fonds d'enrichissement de ces dernières années? Mais pourquoi ces greffes se sont-elles opérées comme naturellement à la Bibliothèque nationale? Eh bien, parce qu'un noyau dur, documentaire, s'était constitué sous l'occupation. Le régime de Vichy avait alors confié à l'administrateur de la Bibliothèque nationale le soin de confisquer, d'inventorier les fonds des différentes obédiences que l'occupant nazi n'avait pas déjà prélevées. À la Libération, le Grand Orient et la Grande Loge, peu rancuniers, et il est vrai exsangues, préférèrent laisser tous ces documents aux soins de la puissance publique. Et qui était cet administrateur à qui on doit cette aubaine? C'est une autre surprise. Il s'appelait Bernard Failly. Longtemps, cela avait été un homme moderne, lancé, universitaire brillant. S'il avait étudié la franc-maçonnerie, c'était en 18e-iste distingué. Comment un homme qui avait su tenir à distance les idéologies a-t-il pu en venir à un pareil choix, s'y tenir ensuite jusqu'à sa mort en 1978? Il y a de quoi alimenter la perplexité.
La marche de l'histoire. France Inter. Jean Lebrun.
Avec Antoine Compagnon, bonjour.
Bonjour.
Qui publia il y a peu chez Gallimard le cas Bernard Failly, dont les auditeurs de France Inter connaissent le goût pour la perplexité. Vos séries d'été l'ont marqué, notamment celle consacrée à Montaigne. Vous trouvez chez Bernard Failly, que vous avez étudié longuement, quatre belles qualités que vous avez peut-être aussi. Proustien, américaniste. C'est un des intellectuels français à avoir le plus fréquenté les États-Unis avant la guerre. Moderne, et vous l'êtes par certains aspects. Et professeur au Collège de France, vous l'êtes aussi.
Je l'avais rencontré sur de nombreux chemins et sans croiser ces chemins. C'est pourquoi à un certain moment, je me suis dit que je devais faire un livre sur lui. Bon, il a été proche de Proust, il faisait partie de ces jeunes gens qui ont été enthousiasmés par Du côté de chez Swann en 1913... Cocteau, Morand, on en connaît beaucoup d'autres. Lacretel, il lui a rendu visite de 1919 à 1922, à la mort de Proust. Bon, ensuite, il est parti aux États-Unis en 19, après la guerre qu'il avait faite dans la Croix-Rouge, parce qu'il était handicapé. Il avait eu la poliomyélite. Il est parti aux États-Unis à Harvard en 19 et il a beaucoup fait de voyages entre les États-Unis et la France. Il connaissait parfaitement ce pays, parfaitement les universités américaines et donc ça m'avait rendu curieux parce qu'ils sont pas très nombreux à avoir cette biographie. Et puis il était proche dans les années 20 de toute l'avant-garde, hein, très proche de Cocteau, très proche de Crevel qui a été un ami vraiment intime.
Grand poète, mort tuberculeux.
Et surtout très proche de Gertrude Stein, puisqu'il est le traducteur en français du chef-d'œuvre de Gertrude Stein, l'autobiographie d'Alice Toklas.
Elle était un peu l'ambassadrice des États-Unis en France, et puis lui, il était un peu l'ambassadeur de la France aux États-Unis, dans le monde intellectuel.
Elle recevait tous les jeunes Américains de la génération perdue, hein, qui arrivaient à Paris, comme Hemingway, et lui recevait à Paris tous les étudiants qui venaient pour leur année de séjour à Paris, des universités américaines.
Il a consacré beaucoup de cours au Collège de France, où il était un énergique professeur, je vois comme un autoportrait dans ce qualificatif, à Lafayette, le héros des deux mondes. Son domaine de prédilection, c'était très largement, en effet, le XVIIIe siècle, dont il aimait aussi les aspects les plus légers. Il n'avait pas dit qu'un autre de ses côtés, qu'il ne dissimulait pas vraiment, c'est qu'il était homosexuel. et écoutez, qu'il trouvait dans le libertinage du XVIIIe siècle quelque chose de plaisant.
Bon, c'est ce qu'on dit, c'est ce que disent les rapports de police. Je n'en sais pas plus que cela. Mais c'était un historien des idées, dont la spécialité était le XVIIIe siècle et les rapports entre la France et les États-Unis. Il avait donc des héros qui étaient Franklin, qui étaient Washington.
Ah, et... Franklin. Je vous propose d'écouter une archive que vous ne connaissez pas, mais on peut la trouver sur le net. Un de ses derniers publics, ce sont les séminaristes intégristes de Mgr Lefebvre à Écône, parce que après la guerre, condamné, évadé, il s'est exilé en Suisse, il a beaucoup fréquenté jusqu'à la fin le monde suisse. Alors, il parle du 18e à sa façon, il ne va pas parler du libertinage devant les séminaristes d'Écône. Non, il leur parle, avant d'aborder la question de Franklin, d'un autre de ses héros plus récents.
Que mon illustre ami le maréchal Pétain, quand il était au pouvoir, ayant lu mon petit livre sur la maçonnerie, et ce petit livre, je l'avais écrit parce qu'ayant rédigé une vie de Benjamin Franklin, je n'avais pas compris pourquoi c'était pitié, c'était un peu gros, c'était un peu laid, c'était un peu bavard, c'était pas horriblement honnête, c'était mais il y a une femme dégoûtante. Pourquoi cet homme avait été reçu en France comme n'étaient pas reçus les rois, comme n'étaient pas reçus Saxon. Et alors, en ouvrant un dossier, j'ai vu que toute la carrière de Franklin était maçonnique, un triomphe maçonnique. Alors, je me suis dit, tiens.
Il s'est dit, tiens. Quand il écrit son premier livre sur Franklin, avant de le faire lire beaucoup plus tard au maréchal, il en présente une version très équilibrée, et tous ses premiers livres sur la franc-maçonnerie sont équilibrés.
Ses livres des années 20 et 30 étaient lus avec beaucoup d'attention par les francs-maçons, et c'était des livres où ils apprenaient beaucoup, et c'était des livres qui reconnaissaient le rôle de la franc-maçonnerie dans la diffusion d'un certain nombre d'idées libérales au cours du XVIIIe siècle. Et avec cette culture américaine, Bernard Failly était en phase avec ces idées libérales, apparemment, je dirais au moins jusqu'à 1935, jusqu'au Front populaire.
Donc la continuité qu'il dessine devant les séminaristes d'Écône, admirateurs du maréchal, il faut la regarder de plus près et il faut chercher la discontinuité, la rupture. Alors vous parlez de 35, 36. On comprend mieux maintenant qu'un intellectuel puisse changer de bord quand on voit tant d'intellectuels des années 2015-2016 entrer dans la période de turbulence où nous sommes changés de bord eux aussi.
Oui. Je ne sais pas s'il y a une analogie entre les années 30 et aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup plus de différences que de ressemblances. Mais si quelque chose a fait basculer Bernard Failly dans ces années-là, c'est certainement le Front populaire et la guerre d'Espagne. Ce sont des éléments qui ont provoqué son rapprochement avec, je dirais, les think tanks qui ont préparé Vichy. Et on le retrouve auprès de beaucoup des penseurs qui rejoindront Pétain à Vichy à partir de 1936. Et il avait aussi un certain nombre de rapports avec ce qu'on a appelé un peu plus tard la synarchie, avec la banque Worms. Il faisait partie de ces élites à partir de 1935.
Alors prenons par moment 35-36, la République espagnole est en crise, c'est la guerre civile en Espagne. Et lui, il est franchement pour Franco.
Alors, il a été très proche à ce moment-là du cardinal Baudrillard, qui était le directeur de l'Institut catholique et un académicien français qui deviendra pétainiste et qui mourra au cours de la guerre, heureusement pour lui.
Et paix à son âme.
Et notamment à l'Institut catholique de Paris, il y a eu un certain nombre d'expositions qui étaient organisées conjointement avec Bernard Failly. Je pense que
Les massacres de carmélites, de religieuses, prêtres, les incendies dans les églises.
Alors, j'ai appris un certain nombre de choses depuis le livre, parce que le livre a été publié il y a quelques années, et comme Bernard Failly est mort très tard, en 1978, il y a beaucoup de témoins qui ont pris contact avec moi par la suite, qu'il avait assez bien connu, et j'ai mieux compris comment ce basculement s'était véritablement fait en 1938, si l'on peut dire, au moment de la guerre d'Espagne, au moment d'un certain nombre de persécutions contre des catholiques en Espagne, de mobilisation à Paris. Bon, et j'ai par exemple appris à travers le journal du cardinal Baudrillard que lorsque Bernard Failly avait eu un accident près de Bordeaux ou près de Libourne, je crois,
en voiture.
Il se rendait à Madrid pour le triomphe de Franco après son entrée dans la capitale espagnole.
En compagnie de qui ?
En compagnie de Duco Bourget, qui depuis là aussi a eu une trajectoire.
Puisque c'est celui qui a repris l'église Saint-Nicolas du
voilà,
Chardonnay.
Où a eu lieu la messe des funérailles de Bernard Failly à sa mort en 1978.
Dans la voiture, il y avait aussi le vicomte Guédan de Roussel, qui est un personnage assez important sa vie, dont on disait qu'il était son chauffeur, son secrétaire, son entremetteur avec le monde allemand.
C'était son homme
son
à
amant,
tout faire.
Peut-être aussi.
Son homme à tout faire. Alors là, moi, je ne m'avancerai pas. Je n'en sais rien. C'est ce que je disais, c'est ce que disent les rapports de police et ce qu'on a dit au moment de son procès. Mais c'était un jeune homme assez brillant, juriste, qui avait été un disciple de Carl Schmitt. Et lorsque Grand penseur allemand, grand juriste allemand, grand penseur de l'état totalitaire et de l'état d'exception, et penseur qui est toujours respecté par les juristes d'aujourd'hui. Lorsque Carl Schmitt vient à Paris faire des conférences durant l'occupation, il rend visite à Bernard Failly, bien entendu, et il y a beaucoup de ces jeunes juristes dont il a été question dans plusieurs ouvrages récemment d'historiens français qui étaient des familiers de Bernard Failly et de la Bibliothèque nationale dans ces années.
Il y a quand même une preuve infaillible selon laquelle c'est son amant, c'est qu'il l'emmenait à Solesmes écouter le chant grégorien, comme alors, il le faisait pour tous ses compagnons préférés.
Bernard Failly était un amateur de musique liturgique grégorienne. Solesmes n'était pas loin de sa maison de campagne et il séjournait là régulièrement. Donc il y a ça, il est clair que Bernard Failly appartient à une grande famille catholique de la bourgeoisie parisienne. Il avait deux oncles qui étaient évêques, hein, frère de sa mère, oncle maternel, et on peut dire que c'est une famille de tradition royaliste.
Alors, il va redécouvrir ce royalisme, ce catholicisme intransigeant, abandonner les idées démocratiques contre lesquelles il n'était pas au départ. Voici un extrait d'un film qu'il commanditera plus tard pendant l'occupation, un film de propagande extrême qui s'appelle Forces occultes et qui imagine l'entrée dans la maçonnerie d'un jeune député bien sous tout rapport et qui finit par comprendre que les maçons veulent la guerre contre tous les régimes d'avenir qui sont les régimes d'experts autoritaires.
Pourquoi vouloir une guerre entre l'Allemagne et la France ?
Mon frère, vous n'avez pas la parole.
Peu m'importe, mais je tiens à dire qu'aucun motif réel de conflit ne peut être invoqué.
Vous le direz tout à l'heure, après l'exposé de notre frère.
Non, je le dirai immédiatement, avant d'entendre des stupidités bellicistes. Oh. Mais vous tous, vous poussez à la guerre. Que ce pays soit gouverné par vos lois, par les juifs, et la maçonnerie surtout. Le peuple français ne se battra pas pour défendre une idéologie fumeuse, un régime ignoble, une république pourrie.
Mon frère Adler, je vous prie de couvrir le temps.
Couvrir le temple, c'est-à-dire sortir, être exclu pour permettre aux travaux normaux de continuer. Il choisit les régimes autoritaires dès avant 1940.
Dès avant, je dirais, de ces années 35-36. Hein, il y a des visites de Bernard Failly à Berlin, avec des discours dans des forums qui sont proches du pouvoir à ce moment-là. Et donc un certain nombre de contacts, notamment avec des juristes. Bon, il y a ce juriste bien connu qui est Friedrich Grimm, qui viendra à Paris, qui sera un des conseillers d'Otto Abetz à l'ambassade de France, avec lequel il est en contact durant ces années.
Perplexité d'Antoine Compagnon, comment quelqu'un qui défendait Roosevelt en 1934 ou encore même en 1935, allait parler à Berlin en 1937 de la responsabilité de l'idéologie démocratique dans la crise européenne. Petite pause, si vous le voulez bien. Je vous suggère d'écouter avec nous, puisqu'on faisait le rapprochement avec l'époque d'aujourd'hui, cette rengaine antimaçonnique qui est tout à fait moderne, qui ne date pas du tout de 1940, qui a un aspect légèrement douceâtre. Il C'est un vrai plaisir, dit-elle, d'être maçon pour régner sur les autres tels des vampires. Il faudrait, pour goûter tout le suc de ce chef-d'œuvre, avoir sous les yeux les images folkloriques habituelles qu'on trouve évidemment sur les écrans de nos ordinateurs, l'œil dans le triangle, tout le symbolisme qui va souvent à volo quand on parle de la maçonnerie.
Dis maman, pourquoi je suis pas franc-maçon ? Va me dire qu'importe, je vais le dire sans contrefaçon. Je suis franc-maçon. Voyez notre empire qui s'étend et qui s'étire. À peu nous avançons. Je suis franc-maçon. Nous sommes bien amicaux d'un peuple de tocards. À l'abri des regards, dirigez les ringards. De ce la tête éclairée et esthète. J'ai gravi les rangs, les échelons, je trouve dans mon panthéon. C'est un vrai plaisir de régner tout à loisir. Suivez mes leçons, je suis franc-maçon. Je suis le vampire caché pour tout subvertir. Ce pays est mon leçon, je suis franc-maçon.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Toujours se méfier des contrefaçons, c'est une adaptation de Je suis un garçon de Mylène Farmer, Antoine Compagnon. On parle avec vous de l'anti-maçonnisme tel qu'il s'est développé sous l'occupation. L'exposition que vous avez déjà vue à la Bibliothèque nationale de France consacrée à la franc-maçonnerie, vers la fin, a logé dans un espace un peu restreint toutes sortes d'objets qui ont été prélevés par des pillages à partir de la défaite, l'été 40, dans les temples et dans les locaux des grandes obédiences. La plus importante des obédiences, c'était le Grand Orient, et ensuite il y avait, loin derrière, la Grande Loge de France. Les Allemands, d'ailleurs, ont précédé les forces de police du régime de Vichy. C'était une sorte de course aux archives.
Le Grand Orient était l'un des premiers objectifs des Allemands à leur arrivée à Paris, avec les éditions Gallimard et le Collège de France pour le Cyclotron et l'eau lourde. Et ce qui les tracassait dans ces archives du Grand Orient, c'était les contacts avec l'Angleterre, puisqu'ils voulaient évidemment continuer la guerre jusqu'à Londres, et c'était ça la raison. La raison du régime de Vichy était tout autre. C'était la destruction des sociétés secrètes, hein, suivant la vieille théorie du complot qui attribuait à la franc-maçonnerie la Révolution française et tous les maux qui ont suivi.
Donc il y avait 14 juin, les Allemands occupent le Grand Orient de France. Quand Bernard Failly, notre héros, celui auquel vous consacrez chez Gallimard un livre, le cas Bernard Failly, le professeur au Collège de France en civilisation américaine, va-t-il à Vichy ?
Il va à Vichy dès juillet. Dès la seconde quinzaine de juillet, il était resté à Paris lors de l'arrivée des Allemands. On a pu penser qu'il avait un certain nombre de contacts déjà, que c'était l'une des raisons de son attente à Paris. Il se rend à Vichy dès la seconde quinzaine de juillet et il est nommé administrateur général de la Bibliothèque nationale au début du mois d'août 1940, c'est-à-dire exactement au moment où la première loi anti-maçonnique est publié, c'est une loi du 13 août 40, si mes souvenirs sont bons, qui interdit les sociétés secrètes. Donc on a ce vieux thème des sociétés secrètes qui a traversé tout le 19e siècle, depuis la Révolution française, puisque c'est ça qu'on reproche à la maçonnerie depuis le livre célèbre de l'abbé Baruel, voyant dans la maçonnerie l'explication de la Révolution française.
Alors ça intéresse une grande partie du public. À l'automne 40, l'occupant, avec les prélèvements qu'il a effectués, notamment au Grand Orient de France, organise une première exposition. Des centaines de milliers de visiteurs l'ont fréquenté. Il est vrai que les distractions étaient rares et puis qu'il leur était promis un face-à-face dans une salle avec un squelette tel que les profanes avaient à le considérer au moment de leur initiation.
Au Petit Palais vient de s'ouvrir l'exposition maçonnique qui jette la lumière sur la curieuse et mystérieuse mise en scène établie par les francs-maçons, qui prétendaient ainsi à impressionner leurs adeptes. On ne peut que s'étonner et sourire aussi de constater que ces rites d'un autre âge aient pu, à notre époque, faire l'objet de telles crédulités. Combien de solennels pontifs de la politique restèrent dans cette cellule appelée chambre de réflexion et parée d'ornements macabres? Combien revêtirent le tablier maçonnique ou passèrent à leur cou ces sautoirs brodés de signes cabalistiques, symboles de leur puissance secrète, aujourd'hui anéantie?
Nouvelles du pays. À Lyon s'est ouverte une exposition de la franc-maçonnerie à l'exemple de celle de Paris. En foule dense, les visiteurs ont pu, après un regard au sphinx de l'entrée, visiter les décors étranges des cabinets de réflexion et les temples différents qu'abrite chaque loge. Ils ont pu examiner les insignes et les objets, les fantaisies macabres qui servaient aux initiations et aux réunions de cette société secrète, dont le sens s'était perverti et que l'État français a désormais interdite en raison des maux qu'elle a causés au pays.
Lyon est en zone libre, et là s'exercent pleinement les responsabilités de Bernard Failly. Il a reçu du maréchal une lettre de mission en novembre 40. Vous devez confisquer, inventorier les archives maçonniques, pas seulement les objets qui peuvent prêter à grand spectacle médiatique.
C'est-à-dire qu'il a constitué une équipe à partir de la Bibliothèque nationale et des locaux du Grand Orient, de la rue Cadet, qu'il occupait. Et avec cette équipe, ils ont pillé toutes les loges dans toute la France, avec une équipe mobile qui était accompagnée d'officiers allemands, d'officiers et de sous-officiers allemands. Et c'est ainsi que à la Bibliothèque nationale, dont le personnel a été multiplié pratiquement par trois, durant cette période de l'occupation.
Ça redevient la bibliothèque royale, disait avec fierté Bernard Failly.
Elle avait de nouvelles responsabilités qui étaient ses archives maçonniques, l'établissement du fichier des francs-maçons, et elle s'entourait de ce que l'on appelait les chômeurs intellectuels. Et par conséquent, il y avait en effet du travail et une direction assez autoritaire et qui était en bonne entente avec le régime de Vichy. Donc Bernard Failly a pu faire un certain nombre de réformes de la Bibliothèque nationale que son prédécesseur n'avait pas pu faire.
Mais il aurait dit, quand je m'entends pas avec le ministre de l'Éducation nationale ou de l'Instruction publique, c'était Carcopineau à un moment, grand historien aussi, je fais appel aux Allemands.
Vous savez, le régime était très divisé. Il y avait beaucoup, c'est ce qu'on sait bien quand on voit comment fonctionnait cette polyarchie du régime nazi. Donc on pouvait toujours trouver à qui s'adresser. Bon, Bernard Failly a eu des conflits avec les Allemands. Hein. Il a eu des conflits avec Vichy. Et en effet, il jouait les uns contre les autres.
Il a eu des conflits avec le Collège de France aussi, où on disait qu'il avait déjà suffisamment d'occupation pour ne pas assurer son cours. Faudrait un jour faire un livre sur le collège pendant l'occupation.
Il y a de quoi, il y a de quoi. J'étais entré dans ce sujet à travers Bernard Failly et il est intervenu au Collège de France où il considérait qu'il y avait un repère de partisans du Front Populaire, tels que Langevin et Vallon, qui étaient ses ennemis jurés.
Sans parler d'Alvax, qui est mort en camp de déportation. En 1942, il n'est déjà plus une personnalité de premier plan, pour différentes raisons, notamment parce que les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Axe, et que donc Vichy n'a plus d'intérêt à ménager un américaniste.
Lorsqu'il allait à Vichy et qu'il déjeunait avec le maréchal Pétain, il lui parlait des États-Unis. Et avec le retour, avec l'entrée en guerre des États-Unis et puis le retour de Laval au pouvoir à partir d'avril 1942 et l'arrivée d'Abel Bonnard au secrétariat à l'instruction publique, eh bien Bernard Failly perd le pouvoir, perd ses interlocuteurs et Laval n'est pas très intéressé par cette persécution des francs-maçons. Il fait partie du personnel de la Troisième République. Il a beaucoup d'amis et de complices qui ont appartenu à la franc-maçonnerie et ce n'est vraiment plus une priorité.
Il a failli d'ailleurs être remplacé début 44, mais enfin, il n'y avait peut-être pas beaucoup de candidats sur la ligne de départ et il attend un pas vide en août 44 dans le superbe bureau d'administrateur qui est le sien, son arrestation. Est-ce que les francs-maçons se vengeront après. Vous voyez, je suis sur le registre antimaçonnique, celui de Forces Occultes, le film de propagande qu'on a déjà cité et qu'il avait commandité 2 ans plus tôt.
Cette épée que vous sentez sur votre poitrine est toujours levée pour punir le parjure. Elle est le symbole du remords qui déchirerait votre cœur si vous deveniez traître à la société dans laquelle vous voulez entrer. Est-ce de votre propre volonté, en pleine liberté, que vous vous présentez parmi nous?
Oui. Néophyte, si vous trahissez votre serment, vous n'échapperez pas à la vengeance de tous les frères répandus sur la surface du globe et qui ont juré de punir le parjure. Le jurez-vous, mes frères?
Nous le jurons.
Eh bien, les francs-maçons ne se sont pas vengés. Ils ont laissé leurs archives confisquées à la Bibliothèque nationale. Ils n'avaient plus beaucoup de temples et d'endroits décents après la persécution pour les recevoir. Vous êtes d'ailleurs tel André Combes, qui avait toute une histoire de la franc-maçonnerie sous l'occupation assez partagée quant aux choix qui ont été faits par les maçons pendant la guerre.
C'est-à-dire que les maçons n'ont pas chargé Bernard Failly lors de son procès en 1946. Au fond, ils ne sont pas trop intervenus à ce moment-là. Bernard Failly, peut-être a-t-il sincèrement cru qu'il protégeait le patrimoine qui, sans cela, serait parti en Allemagne. C'est toujours ce qu'il a dit. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il est resté dans son bureau jusqu'en août 1944, pensant avoir contribué à la sauvegarde de ses archives et de ses biens. En tout cas, il a été condamné très durement. Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il ait été condamné beaucoup plus durement que ses collègues allemands qui le supervisaient et qui n'ont certainement pas été condamnés aux travaux forcés à perpétuité au lendemain de la guerre.
Enfin, il s'est évadé, on lui avait prêté une soutane.
Il s'est évadé peu après, mais il a été condamné en 1946 de manière très dure. Et il est vrai qu'il n'a pas été chargé par les maçons. Les maçons, comme toute la société française, a été divisée pendant ces années de collaboration.
C'est-à-dire?
Il y a eu des collaborateurs chez les francs-maçons comme des résistants. Et la plupart des maçons qui sont morts en déportation ou qui ont été fusillés, c'est pour fait de résistance et non pas à la suite d'une dénonciation.
Plus de 500 au Grand Orient, près de 200 à la Grande Loge de France. Du Collège de France à l'indignité nationale, c'est le sous-titre du livre que vous avez consacré chez Gallimard à Bernard Failly. Y a des gens qui font des bons choix pour de mauvaises raisons. Ça, vous êtes assez expert en perplexité, en scepticisme pour le dire. Il y a des gens qui font des bons choix pour de bonnes raisons. Et lui, alors, il a fait de mauvais choix pour...
Oh, je pense qu'il n'avait pas de bonnes raisons. Il aurait pu avoir une cohérence avec ses engagements libéraux des années 20 et ses engagements avant-gardistes des années 20. Mais, d'une certaine façon, son choix a une relative cohérence avec une tradition familiale qui était peut-être beaucoup plus enracinée.
C'est-à-dire que l'homme ambigu a retrouvé son lit, enfin son lit de vieux catholique traditionnaliste d'une famille de notaires.
Venant d'une grande famille traditionnaliste. Oui.
Merci à vous Antoine Compagnon, et puis vous recommandez l'exposition que vous avez déjà vue à la BNF.
L'exposition est très bien, elle est très riche. Pour qui ne connaît pas bien la maçonnerie comme moi, parce que je ne connais pas bien les rituels, eh bien vous découvrirez beaucoup.
Et puis le Grand Orient de France, avec le même commissaire, Monsieur Mollier, organise une exposition dans ses locaux restitués, rue Cadet, consacrée aux maçons et aux Templiers, bien évidemment. L'émission a été préparée par Timothée Fourré, Franck Olivard, réalisée par Jacques Sigal, avec à la technique Hélène Langlois.